Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, décoiffer les chefs-d'œuvre littéraires, ébouriffer leurs cheveux et leur chercher des poux. Vous écoutez Livre et Châtiment, la seule émission qui ressemble à un bon shampoing purifiant et qui fera oublier la raie sur le côté des grands classiques. Je me dirige vers le bac à shampoing, vers une femme en blouse rose et aux doigts de fée, quoique griffant. Mais bonjour Constance.
Mais bonjour Clara Dupont-Mono.
Avec nous également, celle qui préférera toujours la coupe mulet à la mise en pli, question de standing. Bonjour Liliane Rudière.
Bonjour Clara.
Et enfin, celle dont l'exquis balayage blond camomille dissimule un humour de routier. Bonjour Élodie Emery.
Bonjour Clara Dupont-Mono.
Le roman classique que nous allons décoiffer aujourd'hui, eh ben, vous allez devoir le deviner. À la façon de question pour un champion, car, faut-il le rappeler, l'élégance n'exclut pas d'aimer Julien Lepers. Est-ce que vous êtes prête ?
Prête.
On y va. Je suis un livre d'hiver, publié en décembre 1856. Je m'inspire d'un fait divers réel qui s'est déroulé dans le village de Ry, en Seine-Maritime. Aussitôt, on m'accuse d'obscénité et le mois suivant, janvier 1857, mon géniteur écope d'un procès.
La chatte de Colette ?
Alors non, Constance. Non. Je raconte l'histoire d'une femme brune aux yeux noirs. La première fois qu'elle apparaît, ce sont ses ongles qui sont décrits, je cite, « brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe ».
Hervé Morin.
À cause de la région Normandie, j'imagine ?
Bah oui, puis il a belle allure.
Voilà, et c'est pas un livre. Merci de cette intervention, Liliane. Mon héroïne épouse un médecin, s'installe en Normandie. Elle vit par procuration, comme le chantera plus tard Jean-Jacques Goldman. Elle achète un plan de Paris et du bout des doigts, elle remonte les boulevards. Elle rêve de grande vie. Pour se distraire, elle fait un enfant. Et lorsqu'elle la voit, elle pense, je cite, « C'est étrange comme cet enfant est laide. »
J'élève mon enfant. Laurence Pernoud.
Alors non plus, et puis c'est la preuve que vous n'en avez pas, hein, puisque Laurence Pernoud dit exactement l'inverse. Mon héroïne dépense trop, cherche un amant, le trouve, le perd, rebelote avec un deuxième gars, elle finit par se suicider. Je raconte donc l'histoire d'un ennui, du décalage entre un espoir et la vie. Je raconte aussi l'amour aveugle d'un mari pour sa femme. Je suis... Madame Bovary de Gustave Flaubert, franchement c'était fastoche.
Ah, ouais, d'accord. Okay.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
Alors bien sûr, on peut faire plus rapide pour présenter Madame Bovary. On peut imaginer une bande-annonce du roman, un objet sonore, inattendu et efficace. Et si on dit inattendu et efficace, évidemment, on pense Constance.
Au cœur de la campagne normande, dans un monde réglé et tranquille, entre la sérénité des vaches qui ruminent et la nonchalance de la petite bourgeoisie qui somnole, bouillonne un cœur tempétueux, celui d'Emma Bovary. Emma est prisonnière d'un mariage dans lequel elle s'étiole auprès d'un mari soporifique.
Tiens, aujourd'hui il fait plus froid qu'hier. Je vais mettre le pull-over que maman m'a tricoté. Bah, Emma, Moumoune, tu finis pas tes riz de veau ?
Emma se languit, écartelée, entre ses rêves d'amour fou, nourris par des lectures romantiques et un ennui plus épais qu'un brouillard d'automne.
Mais aimez-moi, bord de la queue ! N'importe qui, un bonnet, un âne, une chèvre, un pommier, même un caillou, le vent ! J'ai tellement besoin d'amour que je pourrais aimer un caillou s'il me regardait dans les yeux !
Emma Bovary, coconne aux idées cucu, usera ses amants nunules parce qu'elle n'a pas beaucoup de boboles en amour.
Maintenant que tu m'aimes depuis 2 minutes, c'est beau, alors partons au bout du monde, mon amour.
Ouais, c'est ça, demain on partira vendre des colliers sur la plage et on vivra dans ma calèche aménagée. En attendant, enlève ton corset, je vais te faire voyager.
Madame Bovary, un drame romantico, tragico, dramatico, pas rigolo.
Mourir plutôt que d'être ruinée ou bien penser à autre chose que ma petite personne. Une seule fois dans ma vie, merde, qu'il a un drôle de goût ce sucre. Oh, je mousse la bouche car je meurs de manière beaucoup trop glamour que prévu. Oh, j'en fais des caisses parce que je suis chiante pendant 400 pages.
Ah, c'était Madame Bovary de Gustave Flaubert. Vu par Constance Fouf sous forme de bande-annonce. Alors évidemment, là s'impose quand même quelqu'un qui lestera cette émission. Hein, je crois que c'est le mot et c'est le besoin. Voici Yvan Leclerc, professeur émérite de l'université de Rouen, doté d'une belle crinière, à ce que je peux voir, et spécialiste de Gustave Flaubert, et également auteur de Madame Bovary au scalpel, publié chez Garnier. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Je peux dire bonjour professeur, c'est un vieux fantasme.
Oui, oui, ben allez-y. Et j'aime aussi maître de conférence, parce qu'on maîtrise quelque chose quand on est maître de conférence. Après, à l'université, on devient professeur, donc c'est banal.
Alors maître, je veux dire maître.
Oui,
bonjour
voilà.
Maître.
Oui,
vous arrivez de cette belle région liée à Flaubert et à Hervé Morin. Alors dites, comment avez-vous rencontré Madame Bovary ?
Alors c'est une histoire très ancienne, ça s'est passé à l'école primaire, donc vous voyez j'étais très très jeune, je crois que c'était en CM2, et l'instituteur nous avait donné une dictée qui était le cortège de noces qui s'étire dans la campagne, et je me souviens du mot de ménétrier que le professeur avait, que l'instituteur avait dû épeler.
Alors, c'était une école privée parce que le niveau est haut là.
Alors non mais c'était l'école primaire d'autrefois, et évidemment j'avais totalement oublié qu'il s'agissait de Gustave Flaubert, mais lorsque j'ai relu Madame Bovary, je n'avais pas oublié ce texte, et là je l'ai resitué et je me suis souvenu de ce texte que j'avais peiné à écrire à l'époque.
Et quelle est votre scène préférée ?
Alors, la scène préférée, c'est peut-être celle où Flaubert dit l'ennui d'Emma d'une manière extrêmement concrète, extrêmement précise, avec des petits détails de la vie quotidienne. C'est-à-dire, il fait pas une analyse psychologique. On entre tout de suite dans la matérialité, même la plus élémentaire de la vie privée.
Oh, professeur, lisez cette scène.
Mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus. Dans cette petite salle au rez-de-chaussée, avec le poêle qui fumait, la porte qui criait, les murs qui suintaient, les pavés humides. Toute l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette. Et à la fumée du bouilli, il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement. Charles était long à manger. Il grignotait quelques noisettes, ou bien, appuyé du coude, s'amusait avec la pointe de son couteau à faire des raies sur la toile cirée.
Et tout est dit.
Tout est dit. Pas d'analyse psychologique, uniquement des petites touches concrètes sur une manière de ne plus supporter la vie quotidienne.
Est-ce que tout le monde autour de cette table a vibré, comme le professeur Leclerc, pour Madame Bovary, Elodie Emery ?
Oui, moi ça m'a beaucoup plu. Je dois dire. Et puis il y a des telles punchlines dans ce livre.
Alors,
quand on lit.
Des punchlines, c'est-à-dire.
Emma retrouva dans l'adultère toutes les platitudes du mariage. J'ai trouvé ça sympa. Et surtout, chaque notaire porte en soi les débris d'un poète. Et ça, je voudrais pouvoir le dire à un dîner. Je voudrais rencontrer un notaire juste pour pouvoir lui dire ça.
Ou on pourrait le taguer. Flaubert, premier tagueur ou premier punchliner de l'histoire. Liliane Roudière, est-ce que vous avez apprécié Madame Bovary de Gustave Flaubert ?
J'ai été très embêtée. Parce que je l'ai lu quand j'avais 17 ou 18 ans. Et je l'ai relu, presque 40 ans après. Et je n'ai pas vu du tout la même Emma Bovary. La première, je l'avais vénérée. Et là, elle m'a un peu agacée.
Comme quoi, les classiques, c'est pas la même chose selon l'âge qu'on a quand on les lit. Et vous, Constance ?
Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré me dire que c'était que des conseils à ne pas suivre. Parce qu'ils sont tous à côté de leur vie. Et j'ai vu ça comme une notice à prendre à contre-pied. Et vous, Clara ?
Ah, et ben moi, elle m'énerve un petit peu. Je sais pas si j'en ferai une amie. Et à tout prendre, à la limite, je préfère Pénélope Fillon. Parce que tant qu'à être épouse de notable à la campagne, et ben au moins qu'il y ait un peu de mouvement avec un manoir, un procès pour emploi fictif. Enfin, ça bouge un peu, quoi. Donc voilà. Moi, je suis restée un tout petit peu sur ma faim. Cela dit, qu'on aime ou pas, Madame Bovary est ce qu'on appelle un classique. Et c'est aussi une first line. La première phrase, qui est un peu comme la première coupe au bol, hein, on s'en souvient. Et la première ligne de Madame Bovary est devenue d'ailleurs célèbre. Cette première ligne, c'est Constance qui nous la dissèque.
Alors, nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Et c'est Kiki, le petit nouveau habillé en bourgeois, que nous décrit Flaubert dans la première phrase de Madame Bovary. Ah oui, j'ai dit c'est Kiki dans une émission littéraire, ça s'appelle de la provoque, je fais ça parce que je suis mal dans ma peau, c'est pour attirer l'attention. Donc, le petit nouveau habillé en bourgeois, c'est Charles Bovary. Qui Charles Bovary ? Qui Charles Bovary ? Vous êtes sourde, hein, c'est Charles Bovary. C'est le mari d'Emma. Ah bon ? Mais donc, Emma, c'est l'héroïne du livre, et elle n'est même pas dans la première phrase. Non, non, elle n'est même pas dans les 6 premiers chapitres d'ailleurs. Ah ouais, donc on attaque direct avec Charles, et on sent que ça va pas être une flèche le Charlie. Et non, un petit nouveau habillé en bourgeois.
C'est même pas un vrai bourgeois, il est habillé en bourgeois. Ça sonne un peu comme s'il était déguisé, comme si sa mère lui avait dit le matin de la rentrée scolaire. Mais si, ça te va bien les mocassins à gland, Charles. On s'en fiche que les autres enfants portent des baskets, ce qui compte c'est de plaire un moment. On sait déjà qu'il va être nul ce personnage, si nul que je vais devoir le répéter 3 fois de suite tant j'ai eu envie de le gifler tout le livre. T'es nul, 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 Charles, nul, 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 pas méchant mais nul. Ah la vache, et dès le départ en fait, il entre en tant que suiveur, il n'est même pas tout seul, il entre derrière le proviseur et avec un autre garçon de classe. Et d'ailleurs Charles, on l'appelle le nouveau, on l'appelle même pas Charles, il partage déjà l'action, le futur cocu parfait. Charles, c'est la bonne poire comme on dit chez les maraîchers, c'est pas Charles qu'il aurait fallu l'appeler, mais Red Charles, tant il passe sa vie à ne rien voir. C'est simple, sa femme pourrait rouler des pelles sous son nez. C'est simple, sa femme pourrait rouler des pelles sous son nez à un autre, il se serait dit « Oh, elle a dû faire un malaise, la pauvre, le gentil monsieur lui fait du bouche à bouche, merci monsieur, merci beaucoup, hein. Peut-être que ça n'était pas un phallus dans la bouche d'Emma que j'ai aperçu tout à l'heure, mais non, c'était certainement une flûte, elle m'a dit qu'elle prenait des cours de piano, mais elle a dû se tromper, elle fait de la flûte à bec, c'est certain, mais oui, c'est tout à fait maléfique de la part de Flaubert d'avoir choisi un tel mollusque de mari pour son héroïne et de nous le balancer tout mou dans les pattes dès la première phrase. Elle va brûler d'envie de fougue cette Emma. Et toi, Flo Flo, tu lui fais épouser un type qui panique d'une année sur l'autre, il n'a pas le même emplacement au camping. Oh Gustave, quel brigand tu fais, quel procédé diabolique tu mets en place, espiègle auteur. Quand Emma aurait eu besoin de 50 nuances de fessée, tu lui offres la routine de Rikiki le boutonneux au pays des tièdes. Et nous, lecteurs, nous allons observer ces personnages se débattre et attendre que ça parte en sucette, parce que évidemment que ça va partir en sucette, on le sait et on aime ça parce qu'on adore ça, les livres avec des histoires qui finissent super mal comme ça, parce qu'on a l'impression que nos vies du coup elles sont vachement moins à chier que les vies des autres. Alors on dit merci qui? On dit pas merci Jackie et Michel, on dit merci Charlie et Emma Bovary. Bonsoir.
Merci Constance. Professeur Leclerc, vous êtes toujours là, ça fait plaisir. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle.
C'est vrai que c'est très mal parti dès le début, en fait. Alors, la critique s'est vraiment interrogée sur le nouveau. Ce qu'on entend dans nouveau, c'est le nous initial, mais aussi le veau. Parce que Charles est un bovin, Bovary. Oh. Et oui, il fait partie de la filière bovine. Et alors, Flaubert en rajoute, on est en Normandie. Le maire de la commune de Yonville s'appelle Tuvache. Léon va épouser une Léocadie Leboeuf. Et Charles est présenté comme un ruminant. Donc on est dans la campagne normande.
Et c'était un peu un humoriste en fait,
absolument.
Flaubert.
Alors, humoriste au sens où il aime beaucoup les calembours. C'est un grand lecteur de Rabelais et il adore les calembours.
On va lui présenter plein de gens ici sur France Inter. Alors autant la coupe au bol, hein, puisqu'on va filer la métaphore capillaire, a mal vieilli, autant le carré long défie toutes les modes. Eh bien, le prénom Emma est un carré long. Il est intemporel. Et je vous dis ça parce qu'il y en a une ici qui lit les classiques en étant focus sur les prénoms des personnages. Alors évidemment, pour faire ça, il faut avoir l'esprit un peu tordu sous le brushing, un peu de génie sous le bigoudi. Il faut être Élodie Emery.
Oui, c'est ça. Mais comme il faut bien que les grands classiques quand même nous rendent service d'une façon ou d'une autre, je propose qu'ils nous aident à trouver des prénoms à nos enfants. C'est plus chic que de s'inspirer des joueurs de foot. Hein. Alors, dans Madame Bovary, chez les hommes, nous avons Charles, Léon et Rodolphe. Rodolphe, c'est aussi le prénom du personnage dans Les Mystères de Paris, d'Eugène Sue. C'est un peu le Kevin du 19e siècle, Rodolphe. C'était très très répandu. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Donc, chers parents, j'ai envie de vous dire à vos Rodolphe. Mais c'est surtout chez les femmes qu'il y a plein d'idées à piocher, d'autant plus d'idées que Madame Bovary elle-même cherche un nom pour sa fille, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, professeur. Je cite le passage sur les prénoms. D'abord, elle passa en revue tous ceux qui avaient des terminaisons italiennes, telles que Clara, Louisa, Amanda, Atala. Elle aimait assez Galsuinde, plus encore Isulte ou Léocadie. Charles désirait qu'on appelât l'enfant comme sa mère, Emma s'y opposait. Finalement, il l'appelle Berthe. Hasard ou pas, Emma Bovary la trouve moche et collante. Pour le reste, Léo Cadi, Galsuinde, je suis pas sûre de la prononciation. Atala, c'est bien sûr impossible à cause de Jacques Attali. Atala et Attali sont dans un bateau. Si Atala tombe à l'eau, on est mal. Mais si Emma avait accepté une fois dans tout le bouquin de suivre la recommandation de ce pauvre Charles qui n'a pas que des mauvaises idées, elle aurait appelé sa fille Emma comme elle et ça aurait fait d'elle une précurseuse puisque le prénom Emma a connu une carrière fulgurante dans les années 2000. Ça a été le prénom féminin le plus donné en France pendant des années. Là, en 2021, Jade et Louise lui sont passées devant, mais elle est toujours troisième. J'ai appris au passage qu'il y avait beaucoup de gens qui écrivent Louise avec un tréma. Louise. Ils avaient peur qu'on le prononce comment ? On ne sait pas. Selon la courbe du prénom Emma, année après année, c'est Lindsay qui fait ça, hein, je ne suis pas marteau à ce point-là, le prénom connaît une ascension fulgurante au tout début des années 2000. Donc, Madame Bovary ayant été publiée en 1856, n'est vraisemblablement pas Flaubert qui a inspiré les parents. En revanche, au printemps 2002, qu'est-ce qui s'est passé qui puisse avoir un retentissement comme ça mondial, un impact qui dépasse celui de Flaubert ?
Ok, it's Emma.
Oh, Emma !
Saison 8, épisode 22, Friends. Ah, évidemment,
yes.
Rachel vient d'accoucher de la fille qu'elle a eue avec Ross. Ils hésitent sur le prénom. Monica révèle les prénoms qu'elle préfère pour ses futurs enfants. Daniel pour un garçon, Emma pour une fille. Et là, Rachel se met à geindre, comme elle le fait souvent. Elle adore le prénom et Monica lui laisse. Donc, le premier bébé de Friends s'appelle Emma. Alors pour tous ceux qui ont voulu faire comme Ross et Rachel, si aujourd'hui vous êtes un peu mal à l'aise face à toutes les critiques qui pleuvent sur cette série depuis qu'elle est en ligne sur Netflix et que ces petites teignes de millennials y ont accès, elle aurait toutes les tares du monde, elle serait misogyne, homophobe, grossophobe. Eh bien rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez fermer le clapet des insolents en disant que vous avez voulu rendre hommage à Flaubert.
Merci Élodie Emery. Professeur Leclerc, Emma, elle n'a pas spécialement l'instinct maternel, comme on dit. Est-ce que c'est ça aussi qui la rend subversive ?
Ah, elle aurait peut-être eu si elle avait eu un garçon. Elle veut un garçon, elle ne veut surtout pas une fille. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas un enfant qui reproduit sa propre soumission. Elle dit qu'une fille a contre elle les mollesses de la chair et les contraintes de la loi. Magnifique.
Oui, surtout qu'il le cite par cœur. L'auditeur ne peut pas voir, mais il n'a pas le livre sous les yeux.
C'est une lecture, enfin une phrase quasiment féministe. Et donc son problème, c'est qu'effectivement, elle a une fille qui va reproduire sa propre condition. Or, elle ne supporte pas la condition qui est la sienne, la condition de femme mariée au XIXe siècle et prisonnière d'un mariage qu'elle a souhaité, mais en même temps qu'elle déplore.
I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue. That's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see rough air, rough world from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Now the pacifier, but homie, the truly change. When you step in the heavens, you see the stars and rearrange. So we. Evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gathered thicker than soldiers lathered. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight. Because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy.
Hope on. let's just be
hopeful.
When you can't see
hopeful,
just remain
hopeful.
Yeah.
Harding, Hopeful.
France Inter. Livre et châtiment. Et
si vous voulez savoir, dans ma bibliothèque, j'ai l'édition originale de Madame Bovary. Je l'ai payé peau du cul, mais je l'ai. Et dedans, il y a évidemment cette phrase magnifique qui m'a hanté toute ma vie. Il y a autre chose qu'à vie d'essence, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût, du dégoût à l'appétit, l'âme flottant toujours incertaine entre l'ardeur qui sont nouvelles et l'ardeur qui sont arrêtées. Mais dans ce mouvement perpétuel, on ne cesse de se laisser griser par l'image d'une liberté errante. C'est un peu ma vie.
Serge Gainsbourg, en 1990, vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui défrise les classiques, un peu comme dans un salon de coiffure. Notre victime de ce dimanche, c'est donc Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Et pour m'aider dans ce carnage, je suis avec Constance. Et Constance, avec qui sommes-nous ?
Tour de table.
Voilà, c'est ce qui est écrit sur votre feuille, Constance. Et il faut le dire, en fait, le tour de table. Il y a qui autour de la table ? Ah, pardon.
Ah, d'accord. Bonjour. Alors, il y a Liliane Roudière. Ne me jugez pas, je débute.
Trop tard.
Liliane Roudière, Élodie Emery et notre invité, Yvan Leclerc.
Voilà, surnommé le professeur dont on est fan. Alors, on a tendance, et c'est bien naturel, hein, à sacraliser un peu les classiques, à intellectualiser, voire même parfois à surinterpréter. Et en réalité, rien ne vaut peut-être une lecture, disons, un peu premier degré, plus pragmatique pour entrer dans un sujet. Cette lecture premier degré, c'est un peu comme un masque capillaire à l'huile de jojoba. Hein, ça répare la fibre et puis ça ne nuit jamais. Liliane Roudière, vous avez non seulement un masque capillaire à l'huile de jojoba, mais aussi l'esprit pratique et candide. Et donc, c'est à vous pour votre lecture premier degré.
Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques coms qui passent. Et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches.
Emma, tu entends ce que Jean Rochefort dit de toi aujourd'hui ? Que tu te faisais raccommoder la crinoline que... Non, j'ose même pas le dire. Ça me choque, tu sais, et j'ai mal pour toi. Mais au fond, je ne suis pas très étonnée. Je t'explique. Je t'ai lu au XXe siècle, je t'ai vénérée, puis je t'ai relu au XXIe, et là, ça m'a sauté au visage. Je me suis dit, mais quelle courge ! Emma, tu t'y prends comme une savate avec les mecs. Côté séduction, c'est quoi cette technique ? Tu chougnes, tu fais ta mijaurée. Ah si, excuse-moi. Mais tes rappels à la vertu, tes paupières mi-closes, tes soupirs à fendre un tronc de châtaignier, j'appelle ça faire sa mijaurée. Tu dis non en pensant oui, tu t'enfuis puis tu reviens. Tu te prépares trop, la cold cream, le patchouli, le citron sur les ongles. Tu pues le « oui, j'arrive !» Crois-moi. Le Rodolphe, il en rigole tout seul. Pauvre Emma. Et toi, tu succombes. Tu te donnes corps et âme. Et là, c'est encore raté. Côté âme, quand tu succombes, on dirait un barrage qui pète. Déferle des torrents de confidences, d'atermoiements, de larmes, de serments d'amour éternel, de mèches de cheveux échangées, d'implorants. M'aimes-tu, mon enfant ? Mon enfant, c'est pas ton gosse, c'est ton amant. Je te jure, même un héros de Marvel s'enfuirait. Emma, les gars, il faut leur laisser de l'air. Côté corps, alors là, c'est le pompon. Pourtant, tu as un atout en plus de ta beauté. Tu es candide. Et ça, les garçons en raffolent. Je cite, « Rodolphe n'en avait pas connu d'aussi candide. Il en fit quelque chose de souple et de corrompu. » Tu es très bon élève. Je ne sais pas ce qu'on t'a appris au couvent, mais dans l'intimité, tu te déchaînes comme un bestiau, dis donc. Tu ne t'effeuilles pas comme une candide, tu te débrailles, tu leur sautes dessus. Rodolphe, ça va le lasser, et Léon, ça va le gêner, je cite. Il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne.
tu n'arrives pas à te contenir. Tu sais, j'ai des copines. Quand elles ont une date, elles
Liane, on dit un date.
Oui, bon, un rencard.
Oui, voilà.
Donc, mes copines, quand elles ont un rencard, elles mettent leur culotte à l'envers pour être sûres de résister. La règle d'or, Emma. Au lit, tu laisses l'homme faire l'homme. Si au moins tout ça te faisait du bien. Moi, je suis pour que le corps exulte, pour que la femme renverse tous les codes Napoléon. Mais hélas, rien n'apaise en toi, je cite, cet insaisissable malaise qui tourbillonne comme le vent. Et alors, c'est le fashion faux pas final. Tu supplies tes amants, toujours à grand renfort de vapeur et de larmes, de t'enlever. Fuyons, partons au bout du monde, rien que nous deux. Pardon, mais c'est un peu comme si tu leur demandais de vider leur PEL. Et pourquoi ils le feraient? Vas-y, dis-moi. Ils ont déjà tout de toi, sister. Oui, tu es une sœur. Oh, moi aussi, à ton âge, j'en ai connu des Léon et des Rodolphe, avant de comprendre que ce n'était pas ça l'amour. Aujourd'hui, le diagnostic serait que tu souffrais de dépendance affective. Un peu de Prozac avec un abonnement fitness aurait été bien plus efficace que le laudanum et l'arsenic. Encore un peu de patience, Emma, et j'en suis sûre, tu aurais enfin connu des étreintes heureuses et apaisées.
Merci Liliane Roudière pour le courrier du cœur d'Emma Bovary. Professeur Yvan Leclerc, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu énervante, Emma, parce qu'elle s'enflamme très vite, on dirait moins à 16 ans.
Oui, ben, c'est-à-dire que ça dépend ce que vous aviez lu à 16 ans, parce qu'Emma s'est construite dans les livres, et par identification à ses lectures et à ses images. Et elle est à la recherche du sublime, et elle ne trouve que des médiocres. Un mari médiocre, un séducteur médiocre, Rodolphe, un amant médiocre, voilà. Et donc elle cherche au-delà, avec une confusion entre la sensualité et le mysticisme. Ce qu'elle recherche, c'est l'impossible, c'est Dieu. Elle voudrait un amant qui soit Dieu, mais ça se trouve pas.
Mais c'est vous qu'elle aurait dû rencontrer,
ah,
professeur.
Ah mais oui, évidemment, mais je suis pas... Comment dire,
oh, attendez, il y a Élodie Emery qui voulait citer
une phrase. Oui, parce que je rebondis sur ce que vous dites. Je cite cette phrase que moi j'ai trouvée merveilleuse, parce que moi elle m'a pas du tout énervée. Je me suis sentie, comme avec Charles, en empathie totale avec Emma. Je suis un peu embêtée de vous le dire, parce que j'ai bien compris que vous les trouviez très énervants. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, ouais, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Évidemment, on nous vend ça. On a toutes regardé des Walt Disney, des histoires de princesses. Elle attend ce qu'on lui a promis. Elle a raison.
Et le mot félicité est intéressant parce que c'est un bonheur tellement fort qu'il confine à l'extase religieuse. C'est un mot qui appartient au vocabulaire amoureux, sentimental et au vocabulaire religieux. Elle est entre les deux, Emma.
Bon, bah, on va vous laisser, Elodie Emery et professeur Yvan Leclerc. Vous allez former un trouple, notamment avec Emma Bovary. Bon, on est moderne. Hein. Alors, vous l'avez remarqué, hein, Livre et Châtiment osent dire ce que d'autres lisent tout bas. Même les meilleurs font des faux pas. Et oui, professeur Yvan Leclerc, même Flaubert, je sais que ça vous fait mal, mais même lui, il n'échappe pas à cette règle. C'est un peu le dark side de Madame Bovary. Élodie Emery, quel est le passage qu'on peut sauter dans Madame Bovary?
Alors, qu'est-ce qu'on peut sauter dans Madame Bovary? Je dirais que ça dépend du lecteur. Si vous êtes une jeune maman, que vous sentez que vous êtes très éprouvée par les pleurs de votre enfant et que parfois il vous vient des pensées violentes, c'est normal. C'est pas du tout un truc de psychopathe, c'est même mentionné dans le carnet de santé. Marocco, sautez tous les passages où Madame Bovary interagit avec sa fille. Il n'y en a pas beaucoup remarqué, hein, puisque Emma s'en fout de sa fille. Mais il y a un moment où elle lui colle une taloche qui envoie la petite contre la commode. Bon, c'est pas la peine de s'en inspirer. Si vous êtes récemment retraité ou bien au chômage et en proie à l'ennui, il y a des passages à éviter pour votre propre sécurité, parce qu'Emma Bovary connaît un rayon en ennui, hein, et elle a vraiment des idées de merde. Hein. Elle achète des robes en cachemire et des écharpes hyper chères, et bien sûr, elle fait des expériences avec ses cheveux. Et oui, je cite, « Souvent, elle variait sa coiffure, elle se mettait à la chinoise, en boucle molle, en natte tressée. Elle se fit une raie sur le côté de la tête et roula ses cheveux en dessous comme un homme. C'est mécanique, quand on s'ennuie, on s'attaque à ses poils de tête. Il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait les gens pendant le confinement. Gérard Darmon s'éteint les cheveux en vert fluo, Matt Pokora en rose, Elise Moon s'est rasé la tête. Donc si vous tenez à votre tignasse, laissez tomber les tutos de Madame Bovary. Enfin, si vous êtes une de ces petites teignes de millennials, vous sauterez à peu près toutes les interventions de Monsieur Lheureux, l'affreux marchand d'étoffes qui conduit Madame Bovary à la ruine. Quand il lui présente des écharpes en soie, Emma demande « Combien coûte-t-elle »« Une misère, » répondit-il, « une misère, mais rien de presse quand vous voudrez, nous ne sommes pas des juifs. » Plus tard, Emma lui demande de calmer un homme à qui elle doit de l'argent. L'heureux répond « Vous ne le connaissez guère, il est plus féroce qu'un arabe. » Et enfin, quand Emma se traîne à ses pieds parce qu'elle est accablée par les dettes, il dit, je cite, « À qui la faute ? Tandis que je suis moi à bûcher comme un nègre, vous vous repassez du bon temps. » Les juifs, les arabes et les noirs, 3 sur 3. Le compte est bon, vous pouvez organiser une manif.
Yvan Leclerc, c'est là où on se rend compte qu'on a fait un peu de chemin quand même, hein, depuis 1856 du côté des préjugés.
Les préjugés dans quel sens ?
Bah là, regardez, c'est ce que vient de dire Élodie Emery. C'est vrai que les préjugés travaillaient comme un arabe, un juif, un noir, etc. Ça, on a fait un peu de chemin, heureusement.
Oui, alors Flaubert est pas vraiment raciste. C'est un problème qu'on peut se poser parce qu'il y a un certain nombre de, comment dire, de phrases comme ça qu'on pourrait mettre à son débit. Mais l'idée qu'une race soit supérieure aux autres lui est totalement étrangère. En revanche, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que Flaubert a écrit le dictionnaire des idées reçues et Madame Bovary s'est bourrée d'idées reçues. C'est-à-dire que ça, l'heureux dit on n'est pas des juifs, c'est pas Flaubert qui le dit, oui. C'est l'heureux. C'est-à-dire que Flaubert met dans la bouche des personnages, au fond, ce qui traîne dans le discours social.
Oui, et ça rend ce monsieur l'heureux parfaitement crédible. Et effectivement, on ne trouve aucune trace de racisme comme ça dans le reste du livre. C'est toujours dans la bouche de monsieur l'heureux.
Absolument.
Donc Flaubert était en plus un ironique, ou en tout cas un subversif, en plus d'être un comique.
C'est ce qui est intéressant chez lui, c'est que les phrases sont toujours à double fond. C'est-à-dire que vous avez toujours un mélange de sérieux et de comique, de pathétique et de tragique, de lyrisme et de vulgarité. C'est ça qui fait la densité de la phrase de Flaubert.
Un homme complet, quoi.
Si on peut dire.
Atomise les deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin. On est loin.
Madame Rêve d'Alain Bachung.
France Inter. Livre et châtiment.
Puis moi, j'ai découvert dans Madame Bovary un personnage beaucoup plus vivant, beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant que le souvenir qu'on peut en avoir. Il y a bien sûr tous les sentiments qui ont construit ce mythe, c'est-à-dire, comme vous dites, l'insatisfaction, la mélancolie, la langueur, mais il y a aussi tous les corollaires de ces sentiments qui sont le désir, la passion, la volonté de s'en sortir.
Isabelle Huppert, présidente de Flaubert 21, à ne pas confondre avec la COP, fastoche, qui célèbre le bicentenaire de la naissance de Gustave. Vous écoutez Livre et Châtiment, et bon, à moins que vous n'ayez zappé sur RTL, vous aurez compris que cette émission est un petit peu irrévérencieuse. Nous faisons crisser la tête de Madame Bovary ce dimanche, et pour ce faire, je suis accompagnée de Constance, qui va nous donner d'ici une seconde le tour de table, Constance.
Alors, tour de table.
Alors là, elle se lève et elle tourne autour de la table, voilà. Elle tourne autour, elle court autour de la table, sous l'œil consterné de notre invité.
Voilà,
voilà. Et on va maintenant égrener les gens qui sont autour de nous, Constance.
Ah oui, donc ça, oui, voilà. Je m'y fais pas en fait.
Voilà, voilà.
Donc Liliane Roudière, Élodie Emery et notre invité Yvan Leclerc.
Voilà, qu'on va remercier de rester. Alors, Christian, Yvan Leclerc, je vois bien vos yeux depuis le début de cette émission. Je suis d'accord avec vous. Honte pour tous ces blasphèmes que nous proférons. Il est temps de donner la parole à Emma Bovary. Il est temps qu'elle s'exprime. Je vais de ce pas l'interviewer. Bonjour Madame Bovary.
Salut.
Vous avez de beaux cheveux, Flaubert les décrit bien d'ailleurs, des bandeaux noirs et brillants qui tombent sur vos oreilles et se rejoignent en chignon sur la nuque. Oh, je vous fais quoi, un carré effilé, quelque chose d'un peu tonique?
Allez-y, de toute façon mon mari m'aimerait chauve comme une couille.
Oh non, faut pas le prendre comme ça Madame Bovary. Votre amant Rodolphe là, celui à qui vous dites « je suis ta servante et ta concubine, tu es mon roi, mon idole, tu es bon, tu es beau », il aimerait bien une jolie coupe, non?
Il aimerait surtout que je lâche, ouais. Les hommes, tous des crevures. Même Gustave, regardez. J'apparais seulement au chapitre 6. Avant, Madame Bovary, c'est la mère de Charles. C'est ma belle-mère. Être confondue avec sa belle-mère, merci.
Non, mais ça, c'est parce que vous vous emballez un peu aussi. Vous craquez sur Rodolphe et puis sur Léon. Plus jeune que vous, en plus. Hein.
Oui, c'est mon côté cougar.
Oh, c'est drôle! Madame de Rênal, qui travaille à la boutique de peinture, là, le rouge et le noir, juste en face, elle me disait, pareil, pas plus tard qu'hier.
Pourtant, Léon a utilisé l'arme de séduction fatale du 19e siècle, la lecture. Il m'a écrit. Et moi, je me suis enflammée. Putain, la conne. Enflammée à cause d'une lettre. Moi, ce que je demandais, c'est un rapport sexuel, pas une lettre. Un bon coït, pas un colis.
Bon, venez, on passe au bac. Ça va la température de l'eau?
Trop froid, j'ai froid. Quelle putain de région, la Normandie.
Ah oui, mais ça, c'est parce que vous connaissez pas Hervé Morin.
Il vient d'où, lui? Des Misérables, de Germinal?
Non, c'est un ami, Liliane Roudière. Je vous expliquerai. Bon. Venez, on passe à la coupe. Bon, attendez, voilà, asseyez-vous. Madame Bovary, faut retrouver un peu le moral, là. Hein. Flaubert l'écrit. Vous vous êtes acheté un buvard, un porte-plume, des enveloppes, et vous n'avez personne à qui écrire.
Ah, oh, j'ai le seum.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? Un petit dégradé?
Faites-moi une crête.
Une?
Une crête de punkette. Parce que dans le fond, c'est ça que je suis. Ben oui, pourquoi tu crois qu'on m'a fait un procès? Parce que je dérange. Je leur crache à la gueule, moi, ces bourgeois de province qui croupissent dans leurs conventions. Voilà, je défie l'ordre, moi. Je fous le bordel. Je baise avec qui je veux. J'aime pas mon gosse. Et je bouffe du poison. Non pas Sarah, de révolution.
Voilà. C'est la fin de cette séquence. Fausse interview d'Emma Bovary, professeur Yvan Leclerc. Toujours vivant, et ça fait vraiment plaisir. Et toujours avec nous, et ça fait vraiment plaisir. Dites voir, elle est un peu révolutionnaire, Emma Bovary, à sa façon.
Oui.
Elle envoie valdinguer tout l'ordre établi. Alors,
oui, c'est ça, vous avez raison de dire. D'abord qu'elle se moque totalement du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire que dans ce petit village, là, ce bourg de Yonville, au fond, on la regarde, on la juge, et elle est totalement imperméable à ses jugements extérieurs. Par ailleurs, vous avez raison de dire qu'elle dérange, parce que c'est une déclaration classée sociale. Elle est issue de la campagne, elle épouse un petit bourgeois et elle rêve du luxe aristocratique. Et donc, au fond, au moment du procès, d'ailleurs, l'un des arguments de la entre le procureur et puis l'avocat de la défense, c'est finalement, il aurait dû rester à sa place. Il y a une lecture un peu conservatrice du roman qui consiste à dire, si elle était restée paysanne sans ambition, au fond, eh bien, rien ne se serait passé. C'est justement parce qu'elle a cette ambition sociale que les choses dégénèrent. Il y a une chose très intéressante que vous remarquiez, c'est Madame Bovary. Il y en a trois de Madame Bovary. Il y a la mère, il y a la première Madame Bovary qui disparaît très vite, mais qui laisse quand même un bouquet de mariage qu'Emma va trouver quand elle rentre dans la maison le soir de ses noces, et puis une troisième. Et au fond, dans Madame Bovary, Emma n'est pas là. Rodolphe va lui dire « Comment ça, Madame Bovary ? C'est le nom d'un autre. » Et elle n'existe pas dans Madame Bovary. Ça, c'est le drame aussi des femmes du 19e siècle.
Alors, on se focalise sur Emma Bovary. C'est aussi oublier quand même que dans un chef-d'œuvre, il y a aussi les personnages secondaires. Eh ben oui, on a tendance à les écarter, on les croit accessoires, mais l'accessoire est essentiel, professeur. Sans épingle, pas de chignon, hein ? Et sans shampoing, pas de Nabila, aussi, voilà. Et donc, Liliane Roudière, quel est le personnage secondaire de Madame Bovary que vous avez choisi ?
J'ai choisi Charles Bovary.
Ah !
Pour faire plaisir à Constance. Dans ce livre, Charles Bovary est raillé, ridiculisé, honni. Mais enfin, que reproche-t-on à ce brave médecin de campagne ? D'abord, si j'ai bien compris, on lui reproche d'être un peu standard. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire. Pas de quoi en faire un drame, non ? C'est quand même une espèce fort répandue et qui, tel le mildiou sur les tomates, surtout cet été, se reproduit à toute allure. Autre reproche de Flaubert, je cite. Charles rentre tard, il retire sa redingote, Emma le sert à dîner, il raconte sa journée, il mange, puis va se coucher sur le dos et ronfle. C'est mal ça ? Ça s'appelle un homme, non ? Et j'en connais des pires. Dès qu'ils rentrent à la maison, en demandant à leur moitié « Lapinou, qu'est-ce qu'on mange ?» et de se coller devant la télé sans un mot de plus. Ah si, t'as racheté de la Suze ? Voyons plus loin. Je cite toujours. Le cœur plein de félicité de la nuit, l'esprit tranquille, la chair contente, il s'en allait ruminant son bonheur. Et alors, ça dérange qui ? En fait, ce qu'on lui reproche à Charles, c'est qu'il est content. Et c'est quand même un peu fort de café. Il faudrait donc toujours décrire les maris comme autoritaires, violents, infidèles ? Non. Un autre mari est possible, et moi je l'aime bien. Hein, Constance ?
Oh, mais il est mou.
Emma ? Elle ne peut plus le piffer. Elle lui reproche de ne pas se douter du supplice qu'elle vit, celui d'aimer Léon en secret. Elle se sent humiliée. Je cite. La conviction où il était de la rendre heureuse lui semblait une insulte imbécile. L'épouse manque de gratitude, car son mari lui fout quand même une paix royale. Et je rappelle que c'est souvent grâce à lui qu'elle a pu chevaucher ses amants. Mais ça y est! Je viens de comprendre pourquoi on le traite de pauvre type. Charles se fait rouler par sa femme, trompé, ruiné. Il est une insulte à la virilité, un danger imminent pour la société des hommes maus costauds. Pour preuve. Je lis dans le Figaro du 28 juin 1857 sous la plume de J. Abance. Je fais Claude Askolovitch.
Madame d'apprécia.
Je cite donc. Ce grand nigo, l'idéal de l'insignifiance, l'ineptie faite homme, digère, ronfle et chauffe ses pieds au feu et se trouve père un beau matin, un dimanche. Il n'en est pas étonné. Moi, beaucoup. Dites-moi ce J. Abance là. J. Je parie plus sur Jules que Josette. Sous-entend bien ici l'impuissance de Charles à être un homme, un vrai. Alors moi, je dis. « Entre ici, Charles Bovary !» C'est plus le... J'ai changé. « Oui, je propose de lancer une pétition pour panthéoniser Charles Bovary en hommage à tous les naïfs, les amoureux, les braves et les cocus. Croyez-moi, ce serait honorer une grande partie de la gente masculine. »
Merci Liliane Roudière. Yvan Leclerc, je suis assez d'accord moi, parce que c'est vrai que Charles Bovary, il est toujours vu comme un cocu heureux, et on peut aussi le voir comme un mari éperdument amoureux de sa femme. Ouais. Il me rappelle moi le roi Marc, qui est le mari d'Iseut, elle le trompe avec Tristan, la postérité a complètement écarté le roi Marc, et lui il est très malheureux à cause de cette traînée qui le trompe avec son... avec son fils adoptif en plus. Mais Charles est dans le club littéraire très fermé des maris amoureux de leur femme.
Absolument. Oui, le coup de génie de Flaubert, c'est de ne pas avoir fait un mari tyrannique ou un mari détestable, au fond. Simplement, il est insignifiant, il n'existe pas. C'est une sorte de surface neutre, comme ça. Et au fond, il représente la prose, alors qu'Emma, c'est la poésie. Flaubert était amoureux fou de Don Quichotte. Il a reconduit le couple Don Quichotte sans choper ça. C'est-à-dire que Emma, elle est amoureuse de l'impossible, c'est Don Quichotte, et Charles, c'est la prose du monde, Sancho Panza. Simplement, ils peuvent pas s'accorder entre eux. Il y a quand même une chose extraordinaire, mais vous le suggériez, c'est que Charles va évoluer. Après la mort d'Emma, il devient sublime. Il y a cette phrase extraordinaire, Emma le corrompait au-delà du tombeau. Et il va devenir digne d'elle. Et d'ailleurs, il va mourir un an après la mort de sa femme, on sait pas pourquoi. On l'ouvrit et on ne trouva rien. Alors rien, qu'est-ce que c'est que ce rien? Il est vide, mais en même temps, il n'y a pas de cause physiologique, il n'y a pas de lésion. Mais il meurt tout simplement d'amour. Il n'a pas besoin de se suicider, lui. C'est une vraie mort romantique, au fond. Et là, après la mort d'Emma, d'abord, il découvre son infidélité, mais il pardonne aux amants de sa femme. Et c'est un personnage qui accède au sublime, finalement. Et alors que Emma reste fixe d'un bout à l'autre, elle ne change pas, Emma. Charles, oui, il évolue. C'est un personnage qui évolue.
Ah bah vous voyez bien qu'elle est un peu énervante.
Ben oui. Voilà.
Me reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois? Bourgeons un beau jour la glycine danse sur le toit.
écho de Laura Cahen.
France Inter, Livre et Châtiment, Clara Dupont-Monod.
Vous écoutez Livre et Châtiment consacré à Madame Bovary de Gustave Flaubert, même si à ce stade il n'en reste plus grand chose. Mais comme les lissages à la kératine, Madame Bovary a une fin. La dernière ligne du texte, elle est très courte, c'est une phrase lapidaire. Je cite « Il vient de recevoir la croix d'honneur ». Flaubert parle de Monsieur Homais, le pharmacien. C'est la version un peu upgradée de Charles Bovary, c'est un Charles qui aurait réussi. Monsieur Homais a un commerce stylé, il a 4 enfants sympas, il a une épouse gentille et il a la croix d'honneur. Transpire dans cette dernière phrase, il vient de recevoir la croix d'honneur, tout le mépris de Flaubert pour les bourgeois, bon, alors même qu'il en était un, pour les médailles et la bienséance. Alors, nous vous proposons, chers auditeurs, de réécrire la fin de Madame Bovary. Et pas une ligne, mais 5 lignes maximum. C'est un exercice qu'on vous proposera à chaque fin d'émission, donc n'hésitez pas à vous exercer. Si vous n'êtes pas inspiré cette fois-ci, vous le serez peut-être la prochaine fois. Sur ces 5 lignes qui seraient votre fin de Madame Bovary, vous y mettez tout ce que vous voulez. Emma Bovary peut ressusciter, s'enrichir, trouver l'amour. Charles Bovary peut aussi complètement renaître. Ils peuvent tous rencontrer Hervé Morin, former aussi une espèce de couple avec lui, de trouple, la fin que vous voulez, pourvu que ça tienne en 5 lignes. Et vous nous envoyez à l'adresse de l'émission livre-et-châtiment@radiofrance.com au singulier, tout attaché, sans espace, livre-et-châtiment@radiofrance.com. Le vainqueur ou la vaincrice, je suis dans l'air du temps, entendra sa fin de Madame Bovary, lui à l'antenne, par Constance, la semaine prochaine. La chance,
c'est vrai.
Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol ?
Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie.
Il a eu quelle maladie ?
La trilogie. C'est une maladie terrible, certainement.
Allez, on termine en beauté, comme on dit chez Jacques Desanges, par nos ambassadeurs précieux, les libraires. Ce sont eux, notre pchit de lac final. Et puis, ils en entendent des choses dans leur boutique. Alors, à tous ceux qui n'osent pas entrer dans une librairie, qui sont un peu intimidés, eh ben, sachez que même les littéraires assidus, dont nous faisons partie, font des gaffes. De quoi décomplexer tout le monde. En partenariat avec la revue des libraires Page, qu'on trouve bien sûr en librairie, nous demandons chaque semaine à un libraire quelle est la question la plus farfelue, étonnante, dépotente, entendue dans sa boutique. Nous avons en ligne Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine à Paris. Bon, je la connais, cette librairie, c'est une belle librairie avec un espace papeterie et un espace luxe. Il y a de la maroquinerie, il y a des Mont Blanc, il y a un livret luxe, mais que demander de plus ? Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Quelle est la question la plus étonnante entendue dans votre magasin ?
Alors, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que un grand souvenir, c'est ce monsieur qui vient, qui me réclame donc Fahrenheit 456 de Ray Bradbury. Donc, en fait, le libraire sait que il vaut mieux pas relever ce genre d'erreur, hein. Donc, il ne dit rien, il va au rayon, il prend ce Bradbury, je lui donne le Fahrenheit 451. Au revoir, monsieur. Merci. Et il revient 2 minutes plus tard et il me dit, en fait, vous êtes trompé de numéro, je vous ai donné 456. Alors, je lui dis, écoutez, là, vous êtes un peu obligé de vous expliquer. Donc, je dis, non, en fait, il n'y a pas de 451, 52, 53, etc. Enfin, c'est le 451, pas le 456. Ah, mais non, j'ai mon papier, c'est marqué 456. Donc là, vous lui dites, c'est simplement la température, en fait, c'est le titre du livre, c'est la température à laquelle le papier s'embrase. Et c'est le sujet du livre, donc c'est Fahrenheit 451. Et ce n'est pas un numéro comme un autre. Et le gars ne m'a jamais cru. En fait. Il m'a jamais cru. Il m'a regardé d'expliquer, m'enfoncer dans cette explication de papier qui s'embrasse tout seul. Et puis, il m'a dit, merci. Il a posé le bouquin, il est parti.
Et il ne l'a pas acheté alors?
Voilà.
Alors, vous savez, non, mais moi, je ricane, mais je peux l'avouer. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai été demandé 38 degrés 2 le matin de Philippe Djian. Et on m'a dit que c'était 37 2. Et je me suis demandé si c'était le même livre. Donc je comprends tout à fait, parce que quand on n'est pas sûr de soi, on peut complètement se tromper. Enfin là, le monsieur, il avait l'air très sûr de lui, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il pense que c'est vous qui êtes en erreur en fait. Et ben merci beaucoup Stanislas, ça aura été le mot de la fin. Merci Yvan Leclerc, votre Madame Bovary au scalpel est paru chez Garnier. Merci Constance, Liliane Roudière, Elodie Emery. Livre et Châtiment, c'est Fanny Leroy en chargée de programme, Stéphanie Texier en réalisatrice et Victor Ouvrard à la technique. à la semaine prochaine. Faites-nous une autre fin de Madame Bovary, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus de lire avec amour et sans pitié. On vous embrasse et bonne semaine à tous.